Heure de rejoindre le LEM sur Radio Évasion.
Sur le 100.4, le LEM, l'émission du midi, le magazine de Radio Évasion de midi à 13h et en direct.
Bonjour à tous et bienvenue dans le LEM sur Radio Évasion. Alors ce midi, ce sera un LEM un petit peu particulier qui ne va pas vous parler forcément d'informations locales. On va surtout parler de littérature et de polar. Et si on parle polar sur Radio Évasion, on se retrouve tout de suite avec Patrick du blog 404. Bonjour Patrick.
Bonjour Pierre-Yves.
Alors ce midi, on va parler d'un ouvrage au titre plus que évocateur, Au pays des barbares. Alors cet ouvrage a été écrit par Fabrice David. Alors Fabrice David, c'est peut-être un nom comme ça qui vous évoque rien, mais si vous suivez l'actualité sportive, c'est sans doute une voix que vous connaissez puisqu'il est journaliste pour TF1 depuis plus de 20 ans. Il travaille notamment pour l'émission Téléfoot, l'émission culte de la Une pour les passionnés de ballon rond. Il a connu les différentes générations, des présentateurs cultes de Téléfoot, de Thierry Roland jusqu'à Christian Jean-Pierre et bientôt Grégoire Margoton, le futur animateur de l'émission. Et Fabrice David, c'est un homme de télévision que l'on connaît donc pour sa voix. Et à un moment donné, il va falloir que tu nous présentes un petit peu le thème de ce livre.
Obligatoirement. Et là, c'est terrible. C'est un drame dans un village à la frontière belge, dans une province reculée. C'est le club local joue sa place en CFA2 sur un match, le dernier. Et il faut absolument gagner. Autrement, c'est la descente aux enfers et c'est la fin du club. C'est ce qui va conduire son principal supporter, Moïse, dit Mo, a tenté l'impossible pour en fausser le résultat, même et surtout en fonçant dans l'illégalité, et ce qui va conduire naturellement, comme c'est un petit peu une équipe de pieds nickelés, à la tragédie.
Et on se retrouve tout de suite avec Fabrice David par téléphone.
Sur le 100.4, le LEM, l'émission du midi, le magazine de Radio Évasion de midi à 13h et en direct.
Alors bonjour Fabrice David. Alors merci de nous accorder un petit instant. J'imagine qu'en plus là il y a une petite adrénaline qui doit monter là.
Ça monte doucement en pression, on est en train de faire des tests, des sujets tests, des montages tests, des habillages tests, voilà. Donc là c'est encore pire parce qu'on fait des tests, donc tout le monde donne son avis, jamais personne n'aura le même, et arrivé le jour J on sera en panique. Mais c'est traditionnel, c'est classique.
Et c'est quand que vous partez en Russie là?
Moi je pars pas, moi tout se fait de l'essentiel se fait de Paris. Il y a 2-3 personnes qui partent parce que c'est des personnes qui font de l'antenne, parce qu'ils sont beaux, contrairement à moi, et qui font de l'antenne. C'est-à-dire que dans le cadre des magazines de Denis Brognard, il y en aura quasiment un par jour, dans le cadre de Téléfoot, on aura des envoyés spéciaux qui seront dans les villes différentes et qui donneront l'humeur, l'ambiance du moment dans la ville où va jouer je ne sais quel match, les Bleus ou je ne sais qui. Donc c'est des gens qui vont partir pour faire des plateaux, ce qu'on appelle des directs. Et il y a beaucoup de gens qui restent à Paris pour fabriquer à partir de tout le flot d'images que nous envoie la FIFA, en plus des matchs, des plus beaux ralentis, mais il y a aussi des interviews, des conférences de presse d'entraîneurs, des entraînements. Donc en fait, on a quasiment toute la matière première qui nous arrive directement chez nous, ce qui est la moindre des choses vu les droits qu'on paye pour acquérir une Coupe du Monde. Donc tout est fourni, donc on peut quasiment tout faire de Paris, donc ça, mais il y aura quand même 2-3 personnes sur place.
Et là ça va. Vous en êtes à combien de Coupe du Monde avec TF1 là?
Mais moi j'ai commencé avec l'Euro 96. Je suis rentré à Téléfoot pour donner des coups de main à l'occasion de l'Euro 96. Sorti d'école de journalisme, il cherchait un petit jeune qui n'ignorait pas totalement les choses du ballon. Et j'y suis encore. Voilà.
Donc de Thierry Roland jusqu'à Christian Jean-Pierre et bientôt Grégoire Margoton.
J'ai commencé avec Thierry Roland, je dirais même Marianne Macco pour les plus fouteux d'entre vous qui écoutent, ça va leur parler peut-être. Ça. Marianne Macco, l'une des premières femmes qui faisait de la télé, du foot à la télé. Marianne Macco à Grégoire Margoton. Oui, c'est joli comme raccourci, pourquoi pas.
Bon, Patrick, c'est pas tout ça, mais on est là pour parler d'un bouquin aussi.
Oui, parce que Fabrice David, il fait pas que commenter du foot. Il écrit des polars, et le dernier sorti, c'est Au pays des barbares. C'est sorti aux éditions Plon. dans la collection 109. Et évidemment, ça commence par une histoire de foot. Enfin, une histoire de supporter plutôt. C'est Mo qui est un supporter inconditionnel du Sporting Club d'Avoisgel, qui est un club de CFA2 perdu à la frontière belge dans les Ardennes. Et ce brave Mo est complètement déprimé parce que son club doit absolument vaincre Sarreguemines dans le dernier match de la saison pour sauver sa place en CFA2 et ne pas tomber dans les premières divisions de Ligue. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Parce que s'ils descendent, le président démissionne, il n'y a plus de club, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Lui, c'est sa vie n'aura servi à rien.
Il n'y a notamment plus de vie pour lui parce que c'est le seul pilier de sa triste vie. Il ne fait pas grand-chose, il tourne en rond, il n'est pas bien malin. Et s'il n'y a plus ça, parce que c'est le pilier avec le bar, le seul bar du bled, c'est le pilier de sa vie.
L'Ardennais, qui est tenu par Torchon.
Voilà. Et Mo, son prénom, c'est Moïse. Et c'est un prénom que j'ai choisi à dessein parce que j'ai raconté une anecdote.
Ouais.
Voilà. Pourquoi sa maman l'avait baptisé comme ça, ce qui donne tout de suite le ton du bouquin, oui.
Et cette descente, si elle a lieu, bah, effectivement, ça anéantit toute son existence parce qu'il connaît par exemple par cœur tous les scores des trois dernières saisons. Il suit le club à l'extérieur. Il bosse à temps partiel dans une jardinerie et il a son tabouret réservé à l'Ardennais, effectivement. Et tout d'un coup, ça dérape parce que c'est juste pas possible pour lui.
C'est pas possible pour lui, c'est inconcevable. Et puis, un de ses copains piliers de bar, qui devait être à ce moment-là certainement un peu éméché, qui, en plaisantant, lui donne une idée pour influencer le résultat. Et si on pouvait influencer un résultat d'un match de façon légale, ça se saurait. On ne peut influencer le résultat d'un match qu'en s'y prenant de façon extrêmement sournoise et sordide. Et évidemment, il va saisir la balle au bon et il va mettre tous ses copains abrutis dans la boucle et ils vont essayer et évidemment leur terrible entreprise va totalement échouer parce qu'ils n'ont pas les épaules pour arriver à mener un projet même aussi sordide et illégal soit-il.
Mais ce qu'il y a dans votre bouquin, c'est que c'est pas le foot qui les rend cons finalement ces gens-là, c'est qu'ils sont complètement abandonnés.
Ils sont abandonnés, ils tournent en rond. Moi, je les compare, alors c'est triste, je parle pas de tous les gens qui habitent en province, je parle de certains, je suis sûr qu'il y en a qui existent, j'en ai moi-même rencontré. Je pense qu'il y a des gens au fin fond de la province qui n'ont rien, qui se font un petit univers avec le peu qu'ils ont, et ça finit par les rendre relativement limités. Voilà. Ça veut pas dire que dans un autre contexte, ils seraient peut-être brillants, mais c'est le contexte qui fait que le type tourne en rond. Je le compare à un hamster qui tourne en rond dans sa roue, c'est-à-dire qu'il continue à avancer, il se passe rien, mais il avance, il se passe rien, puis à un moment donné, hop, il va tomber de la roue, le hamster. Et là, ça va partir en live. Et ben là, le hamster est un peu tombé de cette roue, de cette vie qui ne menait à rien. Il s'est trouvé une idée, et il va tomber de la roue, ça va basculer, et évidemment, quand il est livré à lui-même, sorti de sa roue, si on peut s'attendre au pire.
Mais c'est propre au... Parce que là, on a un peu... On pourrait parler, par exemple, d'un jeune qui se radicalise. C'est un petit peu la même trajectoire. C'est-à-dire qu'il arrive au nihilisme complet et il est prêt à tout risquer, la prison, sa vie, pour empêcher son club...
Je ne crois pas, parce que dans l'exemple que vous me donnez, il y a un fond de haine. Lui, il n'a pas un fond de haine, il est juste crétin. Il est juste crétin, il est presque attachant par moment quand il est avec, quand il a ce petit moment d'intimité avec cette jeune fille qui n'est pas bien maligne non plus, mais ils ont l'air de s'entendre. On sent que c'est un type, il est presque attachant, mais il n'est pas bien malin. Il est entouré de gens pas bien malins. Sa vie l'a rendu pas bien malin parce qu'elle est totalement étriquée dans un tout petit périmètre. Mais je ne crois pas qu'il y ait un fond de haine.
Il est pas loin quand il parle des adversaires, quels qu'ils soient.
Parce qu'il est rentré dans le jeu. Il est rentré dans ce jeu. Il a envie d'être le meneur. Il a envie qu'on le reconnaisse dans la rue de sa petite ville comme étant le meneur, le mec qui entraîne son équipe, qui entraîne les supporters. Il a envie d'avoir une espèce de reconnaissance sociale. Donc c'est pour ça qu'il est enculé à tout bout de champ parce que ça se fait. Mais il n'y a pas de haine, je pense, chez lui. Donc c'est pour ça que moi, je crois pas trop à cette comparaison. Il n'y a pas trop de haine chez lui. Puis ça a dû commencer quand il était petit, puisqu'il a grandi dans cette petite ville. Il a tout de suite vu qu'il n'y avait rien. Il s'est tout de suite approprié quelque chose. Ça n'est pas arrivé comme ça, spontanément, comme la comparaison que vous faites, où ça arrive, on se fait radicaliser parce que spontanément on tombe, on se fait influencer par une espèce d'idéologie. Non, là ça vient de tout petit et puis il n'y avait que ça et c'est resté.
Qu'est-ce qui a pu inspirer certains passages du livre? Et c'était des choses que vous avez vues, vous, sur le terrain, au travers de différents reportages? Je pense à des couvertures de matchs de Coupe de France, par exemple.
Absolument. J'ai vu ces braves gars qui venaient. On sentait que c'était qui préparaient ça depuis le début de la semaine. Ils sont au taquet déjà 3-4 heures avant. Ils en parlent. On sent que c'est important pour eux. Et même si on essaie de leur parler d'autre chose, et ben on en revient à ça. Et puis on sent que ça leur donne le sourire et qu'il n'y a peut-être que ça qui leur donne le sourire. Oui, oui, j'en ai croisé, bien sûr.
On va faire une première pause musicale, Patrick. Alors, je pense que le titre, il est approprié. On va écouter Miossec évoluer en 3e division. Ça colle à peu près, Fabrice?
Ah bah oui, sauf que là, la 3e division, c'est carrément la Coupe du Monde par rapport au mien.
On se retrouve après.
Ok.
Qu'en penses-tu, dis-le moi, même si je ne suis qu'un bon cheval ou un gros bourrin, tu as le choix d'un air droit assez brutal, évoluant en détroit, qui sent la bière et l'animal, les tacles et la mauvaise foi, c'est ma tournée générale. Qu'est-ce que tu vois de l'horizon, du fond de cale, du sang rival ou de la vadoie? C'est bien que tu sois à la finale, dans les vestiaires pour une fois, car si j'ai joué vraiment si mal, c'est que je voudrais encore une fois retourner les miroirs, étouffer les sirènes pour ne plus te revoir, espérer qu'ils reviennent t'attraper la mâchoire, pour que ta peau devienne plus douce que ta mémoire, toujours chaude de son haleine. Comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur, fais comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur, en sueur, en sueur. Tu sais c'est con les jeux de balle, quand on est à trois, y'en a toujours un qui touche que dalle, hormis peut-être des bouts de croix. Tu as le choix, n'ailleurs droit, c'est brutal, évoluant, des trois qui sont la bière et l'animal, les tacles et la mauvaise foi, mais pour les coups de pied aux étoiles, oh pour ça je suis le roi quand je m'achève sur les comptoirs, comme une grosse baleine qui attend sans trop y croire, qu'un jour tu lui reviennes, qu'un jour tu lui déclares, tu joues pas si mal quand même, qu'un jour tu lui déclares, tu joues pas si mal quand même. Comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur, fais comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur.
Et on est toujours avec Fabrice David. Petite question, alors elle est d'actualité aussi, parce que la Coupe du Monde va arriver dans un pays peut-être au contexte un peu parfois tendu. La violence dans le foot, où est-ce qu'elle est la plus intéressante à observer? On a parlé forcément des supporters, hein, c'est ce qui a inspiré l'ouvrage. Mais elle doit être aussi intéressante, ça doit donner des idées quand on voit ce qui se passe sur les terrains ou même du côté des dirigeants par exemple.
Est-ce que c'est une violence inhérente à leur contexte de vie comme chez les miens, qui d'ailleurs sont pas enfin s'il y a une forme de violence, mais c'est inhérent à leur contexte de vie, ou est-ce que c'est une violence issue de l'énorme pression du résultat, de l'argent, de la médiatisation, de la folie qu'entraîne le sport de très haut niveau? Il y a plusieurs formes de violence. Il y a les types qui essayent de qui ont que ça, la bagarre du jour dans leur petite région. Là, on va faire un petit derby. Il y a la bagarre du jour contre les gars du coin. Ça va nous défouler parce qu'on a un peu que ça dans notre vie. Et puis il y a la violence entraînée par le stress d'une compète de haut niveau qu'il faut absolument gagner parce que il y a beaucoup d'argent en jeu, parce qu'il y a un classement en jeu, parce qu'il y a une Ligue des Champions en jeu, parce qu'il y a une adrénaline gigantesque. C'est pas tout à fait la même.
Il y a une autre violence aussi, enfin, qui est une forme de violence, je trouve, c'est que vos personnages, en fait, toute la bande à Moïse, les gens n'ont pas d'identité. Ils sont identifiés par rapport à leurs origines, par rapport à quelque chose. Il y a le Nîmois, il y a le Belge.
Ils sont identifiés par rapport à leur casserole et c'est ça qui va.
Voilà.
Qui va provoquer à la fin l'échec de leur sinistre entreprise. C'est que l'un d'eux, qui a quelques sévères casseroles au cul, va se faire retrouver par une ancienne, entre guillemets, victime.
Mais ça fait comme une zone comme ça qui n'existe pas vraiment.
J'ai pas cherché à raconter 4 ou 5 parcours parce que sinon on s'en sort plus. Mais ils ont tous leur identité, leur passif, leur lourd passif. Qui fait qu'ils sont finalement, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien entre eux, et c'est ça qui va leur causer leur perte aussi.
Ouais, j'avais une question sur Mo. Comment se fait-il qu'il arrive à être supporter de Liverpool tout en connaissant son portrait quand même pas très reluisant? Comment c'est possible? Parce que normalement, quelqu'un qui est supporter de Liverpool a un minimum de background intellectuel.
Alors, je suis pas convaincu. Parce que figurez-vous que j'en connais un. Hein. Pas forcément. Non, il a juste la télé, il a juste entendu le You're Never Walk Alone. J'imagine qu'il a juste vu un match dans lequel Liverpool s'en est sorti avec les tripes, comme ça arrive souvent, qui s'est dit si seulement j'étais né là-bas plutôt que d'être né dans mon trou, qu'est-ce que j'aurais aimé. Et puis pour s'endormir, il en a rêvé. Et puis le matin au lever, il y a pensé. Et puis pendant toute la journée, il y pense. Et puis il a que ça. Et il y pense, il s'identifie. Et puis sa triste réalité, c'est son propre club, mais il s'identifie aussi. Et puis ça fait sa vie, voilà. Ça lui fait ses journées, comme on dit.
Ouais, puis Mo, surtout, il rêve d'être une star de Liverpool, d'être sur le terrain, d'être adulé, de sortir, de se montrer devant les fans. Et il aimerait bien faire pareil, c'est-à-dire sauver son club, le SCAG, et sortir devant le village et dire « Voilà, moi, je vous ai sauvé ».
Exactement.
C'est Moïse, quoi.
À toute petite échelle, il rêverait d'une reconnaissance qui serait purement locale, et encore auprès des quelques dizaines de supporters qui sont sur la main courante lors des matchs. Il rêve de sa petite reconnaissance locale. Il n'est pas trop ambitieux. Il sait que s'il était le sauveur de Liverpool, il serait un héros anglais, un héros européen, un héros mondial. Il se limiterait à être une petite star du quartier du stade de ce petit bled des Ardennes, et ça lui suffirait déjà.
Bah, c'est là qu'il incarne son nom. Il est Moïse, celui qui va sauver son peuple
à son
échelle.
Il ne vient pas de là, son prénom, mais pourquoi pas, oui, bien sûr.
Bah ouais.
Et c'est le moins pire des autres, je pense. Je pense qu'il y en a, entre ceux qui ont des casseroles et puis celui qui s'appelle Étienne, qui lui a quand même des mœurs particuliers, c'est le moins pire de tous.
Oui, 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 mais il a le don de les agréger.
Il les agrège autour d'un projet. Il est le meneur. Pourquoi il est le meneur? Il a été élu meneur en tant que le plus ancien au bar. Bon, c'est leur hiérarchie. Donc, c'est le patron. C'est le chef, puisque c'est le plus ancien au bar. Chacun sa hiérarchie. Il y en a qui font des hiérarchies par l'intelligence, par le charisme. Eux, ils font une hiérarchie par la présence au bar.
Par le tabouret de bar. Il faut surtout pas se gourer quand on entre dans ce troquet-là. Il y a des tabourets qui sont réservés.
Voilà, et puis de toute façon, comme ne rentre dans ce troquet-là, à moins d'un voyageur totalement perdu, ne rentre dans ce troquet-là que les quelques soulards du coin, tout le monde sait que c'est le sien et personne ne lui piquera.
Et vous abordez aussi la question des arbitres dans le bouquin, des arbitres de niveau très inférieur qui sont extrêmement sous-payés. Et à qui on demande beaucoup, qui subissent une pression encore plus envahissante peut-être que sur les grands matchs, parce qu'ils sont en contact direct avec le public.
Absolument. Et là, en l'occurrence, le mien d'arbitre, il est tout à fait, ou il est à peu près sain, pas tout à fait, vous verrez, mais il est à peu près sain, et il n'avait rien demandé à personne, et c'est vraiment parce qu'il va subir la mauvaise idée de ces crétins de supporters. Mais sinon, il n'avait rien demandé à personne, et lui, il vit relativement bien son métier. Il a été plusieurs fois élu un des meilleurs arbitres amateurs du coin, de la division en tout cas. Et tout s'était relativement bien passé jusque-là, et il n'a rien demandé à personne, et surtout pas d'être entre guillemets au centre du fameux complot qu'ont élaboré les bras cassés.
Ouais, parce que ça, c'est un vrai problème dans le foot. Moi je voulais rendre hommage aussi aux arbitres des bénévoles.
Même d'une manière matchs, générale, il faut rendre hommage à tout ce qui est bénévole dans tous les domaines.
Hein. Même au niveau des districts, où les mecs, pour 30 malheureux euros, vont se taper des kilomètres et sont souvent ont des départs difficiles après les matchs, même en 3e division de district.
Ouais, absolument. Ouais. Parce que il y a peut-être des Moïse, des Étienne et des Belges dans le public qui sont des gens pour qui n'ont pas qui font pas la part des choses et si leur équipe ne gagne pas, eh ben ils pensent que ça va leur changer la vie, et en tout cas ça va ça va influencer leur fierté, ça va jouer sur leur fierté, ça va jouer sur leur vie. Voilà, ils pensent que, et ils en sont même persuadés, et ce sont ces gens-là qui font prendre des risques à l'arbitre, et ce sont ces gens-là qui sont susceptibles d'enflammer un public, parce que, et après il y a les mouvements de foule, mais il suffit qu'il y en ait deux ou trois qui s'y mettent, et puis pourquoi il y a une foule qui suit, ça reste un mystère, mais le problème c'est les deux ou trois qui s'y mettent, et les deux ou trois ils s'y mettent parce qu'ils sont persuadés que si le club de leur petit bled perd, eh ben, ça va jouer sur leur morale, sur leur fierté personnelle, sur leur semaine qui va suivre, sur leur relation avec leur femme et avec leur fils. Et peut-être qu'ils se disent si on perd, ça va m'énerver, je vais encore rentrer fâché, je vais encore taper sur ma femme, encore taper sur mon fils. Et il y a des gens qui raisonnent comme ça. Et c'est eux, et pour moi c'est une poignée, hein, mais ce sont eux qui ensuite entraînent une foule qui a qu'une envie, c'est de se défouler, mais qui est pas méchante à la base. Mais il suffit de deux ou trois haineux, et on a ça en Ligue 1. Il suffit qu'il y en ait trois qui fassent des cris de singe quand il y a un joueur black, et après on va dire le public de tel club a sifflé tel joueur parce qu'il était black. Non, il en suffit de trois ou quatre, et puis ils ont entraîné, ils ont fait un petit phénomène de diffusion autour d'eux, et puis ça a fait 10, 15, 20 sifflets de gens qui n'étaient pas venus là pour siffler, et puis ça finit par faire du bruit, et puis on finit par dire ah bah tiens, c'est le public de qui a sifflé. Non, c'est 15 couillons mené par trois encore plus couillons. Voilà.
Vous l'avez filé à Noël Le Graët, le bouquin ?
Non, je ne lui ai pas filé, il a d'autres soucis. J'aurais pu lui faire une petite dédicace en disant « Alors, qu'est-ce que vous pensez de la non-sélection de Benzema ?» Bon, je l'ai laissé tomber.
Ah non.
Il a d'autres soucis.
Eh bah tiens, ça fait presque une transition, parce qu'on va se faire une deuxième pause musicale. Et on va écouter un autre titre, « Foot et musique », qui est plutôt pas mal. C'est un titre en hommage à Zinedine Zidane, avec le groupe Vaudeville Smash.
In 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar, Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Giggs, Goals, but the strongest of them all. Zidane.
Nedved Maldini, Aguero Raúl, Casillas Cavani, Benzema Mandžukić, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimović, Lothar Matthäus, Shevchenko Cantona, Ronaldinho Ronaldo, Romario Rivaldo, Robinho Ramirez Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo Kai Hill Company, but the strongest of them all. Lalas, Wilshere, Honda, Busquets, Siki, Simao, Thierry Henry, Modric, Vidal, Patis, Donova, Eto, Zizou. Zizou!
Toujours avec Fabrice David pour évoquer un ouvrage. Patrick, est-ce que tu peux nous représenter un petit peu brièvement le titre et puis le pitch du bouquin ?
Alors le titre, c'est « Au pays des barbares » et c'est paru aux éditions Plomb dans la collection 109. C'est un polar qui parle d'un supporter fan absolu de son club, un petit club de CFA2 qui joue son avenir sur le dernier match. Et si ce dernier match est perdu, et ben, le club va descendre dans des divisions de ligue. Et à ce moment-là, le président démissionne et il n'y aura plus rien dans le village. Et cette éventualité le déprime tellement qu'il en arrive à commettre des bêtises énormes.
En tout cas, à l'envisager, mais comme il a pas les épaules parce qu'il est pas bien malin, il n'arrive même pas à aller au bout de son projet, en tout cas il y va mal,
c'est impréparé, c'est des pieds nickelés.
Il pensait qu'il y arrive, on aurait dit bon bah bravo à lui, mais il n'en est même pas capable.
Bravo, je suis pas sûr, parce que c'est pas top quand même son idée.
C'est pas top, mais quelqu'un qui arrive qui a un projet et qui arrive au bout, bon bah respect, même si c'est mal fait, même si c'est pas tout à fait légal, mais quand c'est mal fait, alors c'est encore pire.
Ah bah oui.
Et puis pour repréciser aussi.
Oui. Mais derrière toute cette histoire, derrière cette histoire de lui et ses copains un peu bracassés, il y a une espèce de peinture un peu acide de cette province reculée où il n'y a vraiment rien.
Ah oui.
Et où c'est tellement facile de tomber devenir ce hamster dans cette roue qui tourne dans le vide. C'est tellement facile de buter face au rien et d'avoir une vie vide. C'est tellement à portée de main, si je puis dire, qu'il faut avoir un peu de cran pour s'en sortir et pour se trouver une vraie vie, une contenance, des occupations et il y en a qui n'y arrivent pas et donc il y a une espèce de, j'ai essayé de faire une peinture acide de cette petite province que je ne généralise évidemment pas, mais il y a toujours quelques cas quoi, il y a toujours quelques cas et qui se font leur propre avenir, qui se font leur propre organisation de vie, qui se font leur propre fantasme pour essayer que tout ne soit pas complètement vide et évidemment, c'est pas beau à voir.
C'est, tout est en bascule. C'est le lieu est important. C'est pas n'importe où en province. C'est juste à la frontière. On sait pas trop si on est si on fait 10 km, on est en Belgique. C'est une zone où il y a plus trop d'identité. On sait pas trop. Les gens ils sont surnommés de par leur origine. Il y a tout un côté qui fait que toutes les identités, tous les repères ont un peu sauté dans ce coin-là.
Voilà, ben pour ceux qui n'ont pas réussi à s'en sortir, pour ceux qui ont un peu plongé, pour ceux qui se sont trouvés dans un certain confort avec ce vide au milieu d'eux et qui se sont fait leur propre petit repère, souvent leur repère, ben, c'est un copain qui est aussi simplet que vous. Et il y a quand même une galerie, ouais, y a une galerie de type pas vraiment recommandable, oui.
Alors, on imagine que, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, que c'est peut-être des déplacements en Coupe de France. Alors, j'imagine pas en Bretagne, hein, parce que ça se passe pas comme ça ici. Faut pas déconner.
Ah, bah, la Bretagne, c'est Las Vegas à côté. Bah,
mais ça peut faire penser, je pense, ça peut peut-être nous emmener vers d'autres contrées aussi, ce petit paysage un peu dépeint dans le bouquin. Et je pense à la Russie. On pourrait pas imaginer ce bouquin-là transposé en Russie?
Je pense que le petit club amateur au fin fond de la Sibérie, je pense que ses supporters ne sont pas tous des prix Nobel.
Alors,
j'ai bien aimé un terme d'un blogueur qui a bien aimé ce bouquin il y a une semaine et qui a parlé de roman rural, polar rural.
Ouais, c'est
polar,
ça. Ouais.
Rural, ça donne, c'est deux mots à coller qui donnent tout de suite une ambiance, je trouve. Polar rural.
Alors, moi, on va quand même profiter de vous avoir au téléphone. Puis, on va rappeler aux auditeurs aussi. Vous êtes journaliste à Téléfoot. On va parler un peu Coupe du Monde.
D'accord.
Est-ce que l'Observateur la sent bien, cette Coupe du Monde, et surtout pour la France?
Alors, l'Observateur qui suit de près le foot depuis plus de 20 ans pour TF1. A très vite appris quelque chose, il ne faut rien sentir et surtout pas faire de pronostics. Moi, j'avais fait des pronostics avant la Coupe du Monde 2002, alors que la France était championne d'Europe et championne du monde en titre, et qu'elle partait à la Coupe du Monde avec le meilleur buteur du championnat de France, le meilleur buteur du championnat d'Italie et le meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Djibril Cissé, Trezeguet, Henry. Elle est sortie au premier tour sans avoir marqué un but. Donc l'Observateur s'est dit, je vais me calmer sur les pronostics. Deux ans plus tard, il y a l'Euro 2004. Je me suis dit, allez, je vais refaire des pronostics. Vainqueur, la Grèce, qui n'existait pas dans le paysage du football avant, et qui n'existe pas depuis, d'ailleurs. Je me suis dit, Fabrice, on t'a dit, arrête de faire des pronostics. Et j'en ai refait un quand il y a eu Brésil-Angleterre, il y a 4 ans. 1-7. Brésil-Allemagne. 1-7. Ouais, donc, définitivement, je ne fais pas de pronostics, et définitivement, je ne sens pas. Parce que c'est nier ce qui fait le charme du sport de niveau en général et du football en particulier, la glorieuse incertitude du sport. Tout peut arriver sur un match. Il peut y avoir tellement de faits de jeu, il peut y avoir tellement d'événements, de micro-événements, qu'il faut, il faut pas. Je ne veux plus faire de pronostics. Je vous ai cité des exemples. À chaque fois que j'en ai fait, je m'en suis pris plein la gueule. J'en aurais fait un, même si c'était pas la Coupe du Monde, j'en avais fait un avant le retour Barcelone-PSG. Je vous raconte pas ce qui s'était passé. Bon, donc il faut pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire qui va la gagner, qui va bien s'en sortir et si la France ira loin. On peut raisonner en termes de logique, mais je me refuse à faire de la logique en matière de foot.
La Russie, pour des prochains ouvrages, ça peut pas être le moment de prendre des billes?
De prendre des billes.
De suivre ça avec attention et peut-être s'inspirer de cet univers, peut-être un cran un peu plus glauque pour un prochain polar.
Ah, je vais rester en France, moi j'aime bien la petite province française, j'aime bien ses caractéristiques, j'aime bien ces gens que j'ai un peu côtoyés, j'aime bien l'idée que le lecteur se dise le gars là, qui a pas l'air bien malin, mais si ça se trouve je vais le croiser dans une demi-heure, et ils peuvent très bien le croiser dans une demi-heure. Même s'ils habitent à Paris, parce qu'à Paris ou en région, on en a aussi quelques-uns qui sont devenus étriqués et un petit peu haineux, il faut le dire, par leur contexte, par leur univers, par leur solitude, par leur manque d'activité, par leur manque de reconnaissance sociale. Il y en a même aussi à Paris. Bon, il y en a plus peut-être dans les petites provinces reculées. Mais j'ai envie que le lecteur se dise, le gars là, dans une heure, je vais peut-être le croiser.
Et on va terminer par une question qu'on pose assez souvent aux journalistes qui écrivent des polars. Est-ce qu'un bon journaliste fait un bon auteur de polars ?
Non. Je crois pas, non.
Déjà, il fait pas forcément des bons articles.
Je crois qu'un bon journaliste, ça veut dire qu'il sait raconter une histoire, parce que c'est la base même de ce métier. Donc, il y a un a priori favorable. Mais après, c'est une longue histoire. Et une longue histoire, ça se raconte avec un rythme, ça se raconte avec des rebondissements, ça se raconte avec... et c'est pas comme un article qui décrit. C'est pas comme un article. On peut très bien décrire un événement ou un match sans y mettre les ingrédients qu'on met dans un polar, parce qu'on veut juste raconter ce qui s'est passé à un téléspectateur. Moi, je vais raconter au téléspectateur ce qui s'est passé quand je vais faire mes reportages, mes sujets pour le Mac ou pour Téléfoot. Là, c'est une fiction dans laquelle il faut que j'invente moi-même ce qui s'est passé. Donc, c'est pas pareil. Jamais d'inventer pour le téléspectateur de Téléfoot.
Dans votre univers, la très très glauque là, de ce petit village ardennais, il y a quand même deux petites lumières. Il y a Firmin et Mado qui peuvent représenter la tentation de la paix, la fin de l'angoisse.
Mais
il n'arrive pas à les prendre.
J'ai pas envie de tomber dans la facilité en disant qu'il n'y a que des débiles. Il y a des gens qui, eux aussi, se sont amourachés de ce club, mais qui savent aussi faire la part des choses et ils ont quelque chose ailleurs dans leur vie.
Ben, c'est des femmes.
En l'occurrence.
Bah ouais.
En l'occurrence, c'est peut-être prémonitoire. C'est peut-être elles qui vont sauver ce monde qui part en décadence.
C'est possible, oui, parce que c'est les seules qui représentent un petit peu un espoir de paix dans tout ça.
C'est les seules qui représentent un espoir de paix. C'est les seules qui auraient pu apaiser le personnage principal qui est un peu enfermé dans son unique obsession jusqu'à tenter de commettre l'irréparable en son nom. Elles ont peut-être un peu plus de recul et comme elles sont là pour se faire plaisir et pour côtoyer les gens de leur propre village, mais elles sont pas des fans de foot à la base, ces deux personnages dans mon livre, c'est peut-être ce qui les sauve.
Sans doute, mais Mo n'arrive pas à les prendre. Tant pis pour lui.
Mo a raté l'occasion et évidemment, ça ne se finit pas bien pour lui, mais il l'a un peu cherché. Et quand il en reviendra de tout ça, bah, il recommencera s'il n'y a rien eu qui l'ait fait un petit peu sortir de cette roue dans laquelle il tourne à vide.
Merci beaucoup Fabrice David.
Merci.
On vous souhaite un bon mois de juin et puis jusqu'à la mi-juillet. Hein.
Voilà, là on a coutume de dire on n'est pas couché. Là pour le coup on n'est pas couché, oui, parce qu'on a des. Vous verrez, hein, Denis Brognard va vous présenter des mags à 17h, à 19h, à 22h, il y aura en plus des téléfoot. Mettez-vous sur TF1, vous allez en manger, mais vous raterez rien. Mais vous allez en manger. Hein.
Bon, placement produit, ça c'est fait.
Il va éteindre les flammes des équipes éliminées.
De quoi ?
Il va éteindre les flambeaux des équipes éliminées.
C'est Adil Rami qui m'a dit exactement. Denis, donne-moi un collier d'immunité, je crois, dans Téléfoot la semaine dernière.
C'était très bien vu, ça.
Oui, parce qu'effectivement, Adil Rami, il faut qu'il y ait une petite hécatombe pour qu'il joue. Je pense qu'il a été pris, malheureusement, je ne sais rien, mais je pense qu'il a été pris par défaut. Il est un peu moins bon que les trois autres. Mais bon. En tout cas, il peut jouer. Je pense qu'il jouera plus un rôle dans le vestiaire et dans l'ambiance que sur le terrain, parce qu'il y a évidemment dans l'esprit de Didier Deschamps, je pense qu'il y en a trois devant lui. Mais pourquoi pas ? Il en faut des comme ça, De toute façon, un groupe, ça se constitue avec des sourires, avec des talents et pas de personnages clivants, si vous voyez à qui je fais allusion. Et c'est pas en mon nom que je parle, hein. Je le traduis comme ça, c'est mon sélection à notre ami Benzema. Mais il faut aussi pas de personnages clivants en plus de personnages qui rassemblent.
Et on va se quitter en écoutant un titre. Alors, je ne sais pas si c'est un titre qu'aurait pu écouter Mo, le héros du bouquin. On va se quitter en écoutant du Rammstein. Est-ce que c'est ce genre de truc qu'il aurait pu écouter ?
Ben, je pense que pour écouter de la musique, il aurait déjà fallu qu'il ait autre chose que deux Playmobil et un lit crasseux dans son vieux studio. Donc je suis même pas sûr qu'il ait un appareil à musique. Je crois qu'il a il est dans la vieille voiture avec laquelle il va chez Bricologue, je suis même pas sûr qu'il ait un autoradio. Je pense que je suis pas persuadé qu'il écoute de la musique, parce que pour s'apaiser, il repense à son équipe, il refait des compos d'équipe, il replace les joueurs à un poste qu'il préférerait, il repense à l'équipe d'il y a 2, d'il y a 3, d'il y a 5 ans, il se revoit des résultats, il repense au prochain adversaire, et tout ça, ça lui prend tellement de temps que je suis même pas sûr qu'il écoute de la musique. En tout cas, j'ai pas fait de place pour un lecteur de CD dans son sombre appartement.
Bon, bah c'est pas grave. On va quand même écouter Rammstein avec le titre Moscow.
Mais vous trouvez des choses improbables quand même, hein. Je connaissais pas tout ça.
Ah bah c'est bon, le dernier titre Rammstein Moscow, c'est juste pour faire une petite allusion à la Coupe du Monde. Voilà.
Bon, bah super.
Bah merci. Bravo, beaucoup.
Merci.
l'émission du midi se termine.